Le train fantôme. Une série de Jean-Baptiste Diaz. Troisième épisode. National 7.
Est-ce que tu te souviens du temps qu'il faisait ce 18 août 44 ?
Chaleur épouvantable, pas de vent. 37 à l'homme, moi. Au milieu des vignes, là-bas, à Châteauneuf, il devait y avoir 40. Hein. Et moi, je me trouvais dans cette maison, là. Puis, à un certain moment, le silence. Hein.
J'étais ici, à l'ombre des platanes. On prenait avec les copains le frais, là, on regardait passer les voitures. Et d'un coup, on a entendu une rumeur, là. Au virage, là-bas, on voit déboucher une troupe, elle tenait toute la route, et encadrée par des Allemands armés.
J'ai traversé la route ici, devant l'hôpel militaire, des officiers. Je n'ai pas remarqué de signe SS. Par là, j'ai vu des femmes qui piétinaient. J'ai vu la colonne, le début de la colonne, ce n'était que des femmes qui se trouvaient là. Mais alors dans un état dépenaillé, épouvantable, mais j'étais quand même choqué, là je ne comprenais pas. Je suis arrivé au niveau de la maison de mes parents, j'ai vu que ça continuait sur des hommes. J'avais déjà croisé le premier fait de gendarme. Le second qui se trouvait là-bas m'a fait rentrer dans la maison. Ah, raus, raus.
Quand ils sont arrivés ici, les Allemands ont commencé à crier, nous faire oust, tous, et on est parti. Alors,
il y avait une colonne de fait de gendarme qui marchait en regardant les prisonniers. L'autre colonne, dos à dos, regardait du côté de la population.
Mais je suis resté sur le pas de la porte entrebâillée. J'ai vu passer tous les prisonniers.
Ils étaient, je pense, par cinq.
J'ai dit, bon Dieu, papa, regarde ce qui passe là. Ils tenaient toute la route. On aurait dit des bagnards. On aurait dit des bagnards. Ils faisaient pitié même à les voir. Il y en avait, vous voyez, qui étaient vraiment sales. C'était un peu des guenilles qu'ils avaient. Hein.
Ici, j'ai très bien vu le képi du gendarme. J'ai très bien vu le curé. Là.
Dans les 700 personnes qui marchaient, il y avait un curé, un gendarme et un facteur.
Il y avait un facteur. Mais c'est les prisons d'Orange que l'on vide. Pas possible, il n'y a pas de prison pour contenir tout ce monde-là. Ce sont peut-être des juifs, c'est peut-être autre chose. Puis il y en a qui disaient, mais il y a un curé, donc ce n'est pas des voleurs. D'autres disaient, il y a des gendarmes, encore plus. Les gens étaient troublés. C'était impressionnant, ouais, c'était vraiment impressionnant.
« 18 août 1944, Sorgues, Vaucluse. Charles a 11 ans, Joseph en a 16. Ils ne le savent pas encore, mais ils viennent de voir passer les plus de 700 déportés du train fantôme, sévèrement gardés par 180 soldats allemands. Joseph vous l'a raconté au précédent épisode, il a aidé l'un de ses prisonniers à s'évader. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off. Ce troisième épisode de l'histoire du train fantôme nous emmène à nouveau dans la petite ville de Sorgues, pas très loin d'Avignon. Nous sommes là pour remonter la piste d'un mystérieux convoi de déportés qui s'est perdu dans un demi-siècle de silence et d'oubli, avant qu'en 1989, cette histoire ne commence à être patiemment ressuscitée par l'amicale des déportés et résistants du train fantôme, dont Charles faisait partie. Faisait, car Charles est décédé en 2020. Et je suis désolé qu'il n'entende pas ce reportage enregistré avec lui en 2014 et que je vous propose enfin aujourd'hui. Vous allez au cours de cette heure à venir revivre ce 18 août 44 tel que Charles l'a vécu, à l'endroit même où il a été témoin du passage de ce triste cortège sur ce tronçon de National 7.
Salut Charles.
Bonjour. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7.
Alors là, on est en train de rouler sur la National 7 hein, qui passe dans Sorgues. Et c'est la même fameuse National 7 qui a été chantée par Charles Trenet. Hein,
ah, tout à fait. Maintenant, il y a une déviation de la National 7 qui ne passe plus dans Sorgues, mais c'est la route nationale 7 authentique. Hein. Mais elle portait des noms comme Avenue d'Orange ou Avenue d'Avignon. Mais c'était la National 7. J'ai vu passer beaucoup de monde là. J'ai vu passer le président Lebrun, j'ai vu passer De Gaulle, j'ai vu passer toutes sortes de personnalités qui empruntaient cette voie pour descendre dans le sud. Hein.
Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là qui fait risette, on est heureux, National 7.
Et nous nous trouvons même sur le parcours de l'arrivée des déportés résistants du train fantôme. Voilà le chemin qu'ils ont emprunté. Nous sommes en train de rouler sur leurs traces.
Toi, tu avais quel âge le 18 août 1944 ?
J'avais 11 ans.
Toi, la guerre, tu la vois avec tes yeux de gamin.
Et c'était une occasion de faire beaucoup de mauvais tours. Les parents étaient inquiets. On se sauvait pour aller faire des mauvais tours, tracasser les Allemands, les chaparder. Ça nous amusait. Je suis né dans cette maison à gauche, là, tu vois.
Vous êtes maintenant sur la portion de National 7 qui traverse le centre-ville de Sorgues. Charles vous l'a raconté au précédent épisode, pour le gamin turbulent qu'il était, l'occupation a été le théâtre de 400 coups et autres jeux interdits. Peut-être que vous vous direz, avec raison d'ailleurs, que c'est déplacé de raconter des farces de garnement alors que l'Odyssée du train fantôme relève de l'épouvantable histoire des meurtres de masse commis par les nazis. C'est peut-être par appréhension d'aborder cette horreur que j'ai encore un peu repoussé le moment en demandant encore à Charles de nous raconter, in situ, des trucs marrants qu'il faisait quand il était môme sous l'occupe. Et Charles ne s'est pas fait prier. Mais je trouve aussi intéressant de raconter que tout le monde n'a pas le même vécu d'une époque. Pour Charles, dont la famille n'appartenait pas à des communautés ou à des partis persécutés par les fascistes. C'est bête à dire, mais cette guerre et l'occupation ont été d'abord une période d'insouciance. Du moins jusqu'au 18 août 44, où là, le gamin a brutalement compris que la guerre est une chose grave et dangereuse.
Ça n'a pas changé, là. Ça n'a pas changé.
Juste derrière nous, là, on est dans l'abribus, mais juste derrière...
C'était les écoles où les Allemands... Séjournaient, ils couchaient, ils avaient leur dortoir, il y avait tout ça, ils avaient récupéré l'école.
Il n'y avait pas un bistrot non plus
dans le... Alors le bistrot se trouve là. Là maintenant il y a une banque.
Tu me disais là, cette avenue, donc actuellement avenue d'Orange, il y avait des platanes là.
Mais au pied de ces platanes, tous les 30 mètres, il y avait un trou d'homme. Un homme pouvait se mettre dedans, s'abriter parce qu'il arrivait que les avions anglais viennent mitrailler la National 7. Vite, ils sautaient là-dedans dès qu'il y avait une alerte. Mais nous, les garçons là, du quartier, j'étais un peu le chef de bande, je leur faisais faire des mauvais tours. Je leur disais d'aller faire un caca dans les trous. Alors, les feuilles de platane recouvraient tout ça, ça ne se voyait pas. Mais quand il y avait une alerte, on attendait, nous, ça, qu'il y ait des Allemands qui sautent là-dedans. Oh, alors, on a rigolé. Ça, pour rigoler, on a rigolé.
Vincere, 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 e vinceremo in terra, cielo e mare.
Raconte-moi l'histoire de l'Italien.
Ah, les Italiens, alors ça c'est quand les Italiens sont arrivés, ça nous surprenait, parce qu'on n'avait jamais vu cet uniforme-là. Un très bel uniforme, ils étaient rutilants, les Italiens, ils aiment bien l'uniforme. Et ils avaient une plume au chapeau. Et j'ai su par la suite que c'était des Alpines. Ça existe toujours d'ailleurs, il y en a au Piémont, beaucoup. Et alors nous, on était derrière cette grille, et j'étais avec mon ami Loulou, son père était directeur de la maison de retraite en face, là. On s'amusait toujours ensemble. Alors on se trouvait là, derrière la grille, et puis, je sais pas, j'avais dû entendre dire ça quand les Italiens venaient d'arriver, pour les faire mettre en colère. Alors, la plume, soldate. Ah, il était très content, il vient vers nous, le gars, tout ça, il faisait voir sa plume. Alors moi, je lui dis, Ah, Mussolini, il a mangé la peau, là. Et toi, tu fais ceinture. Et tu mets la plume et le cappello. Oh, punaise. Si tu avais vu le mec, il est devenu rouge de colère. Tous les deux étaient rouges de colère. Mais comme il y avait la grille, il fallait qu'il fasse le tour, qu'il fasse presque 200 mètres pour trouver l'entrée. Et nous, on n'a pas attendu notre reste. On est parti. Là-bas, il y a un parc municipal. Ben, on s'est caché dans un marronnier et on n'a pas bougé de l'après-midi. Voilà, voilà, voilà les petits exploits qu'on faisait, on s'amusait, quoi. J'allais à l'école, je suis passé par cette petite ruelle pour aller à l'école. C'était pas loin pour moi. L'entrée de l'école, elle était à gauche. Et au fond, là-bas, il y avait le chef de la milice du Vaucluse. C'était un médecin qui était là-bas. Et mon père, il n'était pas très malin parce qu'il recevait des tracts de la milice, tout ça. Il recevait des tracts du PPF, tout ça, comme tout le monde en recevait dans les boîtes aux lettres. Alors lui, il en faisait une liasse et puis il me disait, va le mettre ça à celui qui les a envoyés. Et moi, j'étais tout fier d'aller le remettre là-bas au chef de la milice. Ce n'était pas des tracts infamants, c'était ceux qu'ils avaient envoyés. Mais enfin, néanmoins, il aurait pu me dire, qui es-tu, d'où tu viens, pourquoi tu apportes ça. Je mettais la boîte aux lettres et je porte un courant. C'était pas malin. Alors là, tu vois, d'abord, il y avait une poste à chevaux, là, qui datait du 19e siècle. Et là, il y avait une écurie, parce qu'il y avait un cocher qui avait dû habiter là, il avait gardé son écurie. Les Allemands ne trouvaient rien de mieux, l'officier, de mettre son cheval. Et il y avait un palefrenier à demeure qui s'occupait que du cheval. Alors tu parles, nous, quand il sortait le cheval, tout ça, on était tout contents. Et il nous faisait monter sur le cheval. C'était sympa, puis quelquefois, l'officier leur venait chercher son cheval pour aller faire le défilé. Et il ne parlait pas français, mais on était tout autour, tout contents. Après, il faisait le défilé dans Sorgue, c'est-à-dire l'officier sur le cheval, avec toute la troupe derrière, des Allemands casqués, tout ça, bien peut-être une cinquantaine. Et il passait en chantant Ali Allo. Les gens étaient horrifiés, ils défilaient dans le sang. Alors, mais est-ce que c'est possible de penser qu'un jour il y a des Allemands qui défilaient là, hein? Si je ne l'avais pas vu, je ne le croirais pas. Alors quand il arrivait à notre niveau, on était là. Les gens gueulaient une bombe là au milieu, les gens qui mettaient-y le feu, ils criaient de tout. Et nous, quand ils nous voyaient l'autre de l'Allemagne, ils nous faisaient bonjour, nous on les faisait bonjour. Oh putain, les vieux, ils étaient fous. Ils étaient fous, les vieux, de voir ça. Nous, ça me foutait. Il nous faisait grimper sur son cheval. On avait sympathisé. C'était peut-être pas un mauvais bougon, mais il était fier de Palermo. Il faisait le tour du pâté de maison. Là. Il chantait. Quand même, ils étaient gonflés. Hein. Non.
Bah, vous étiez pas mal non plus, les gamins, quand même. Hein.
Oh, bah, nous, quand on s'amuse dans la rue, on est toujours diable. Hein. On est toujours diable. Hein. On n'avait pas des machins électroniques pour faire des jeux, des machins comme ça. On s'amusait comme on pouvait. On faisait des revolvers de cow-boy avec du bois, on le sciait. On s'amusait comme on pouvait. On était passionnés d'essayer de trouver des armes, hein, surtout. Pour jouer au cow-boy, hein. Voilà.
Si jusque-là l'occupation a été pour Charles le prétexte de pendables bêtises, ce 18 août 44, la guerre bascule donc pour lui dans le dramatique et le menaçant. Chassé par les alliés qui ont débarqué en Provence depuis 3 jours, des troupes de la Wehrmacht, plus ou moins en panique, refluent dans une incessante cohorte de véhicules qui passent par Sorgue. Mais soudain, le flot de troupes se tarit, les moteurs se taisent. Venant à pied des vignobles de Châteauneuf-du-Pape, apparaît alors une colonne de plus de 700 prisonniers et prisonnières en loques, férocement encadrés par près de 180 feltgendarmes. 70 ans après, en 2014, Charles vous emmène à l'endroit précis où il a vu passer cette misérable troupe qui va disparaître de l'histoire pendant près d'un demi-siècle.
On s'est arrêté devant le 206 de l'avenue d'Orange, tronçon de National 7. Est-ce que tu te souviens du temps qu'il faisait ce 18 août 44?
Chaleur épouvantable, pas de vent. 37 à l'homme, moi. C'était épouvantable. Ça certainement, il y avait des endroits où, au milieu des vignes, là-bas à Châteauneuf, il devait y avoir 40. Hein. À la Nationale 7, où la colonne d'Allemands remontait, la colonne de l'armée en déroute remontait. Et moi, je me trouvais donc dans cette maison-là, je m'amusais là. C'était chez un copain, Marc Marguet. Et à un certain moment, il y a eu le silence, hein, parce que cette voix est très bruyante. Hein. Puis, à un certain moment, le silence. Hein. Ça ne m'a pas intrigué, moi, parce que je n'étais pas occupé à ça. Ça a préoccupé sa maman. Lorsque sa maman a, on pourrait dire, entendu le silence, et elle s'est dit, il se passe quelque chose. Hein. Alors elle est sortie dans la rue, et elle a vu qu'il ne passait plus de voiture, mais elle a vu, par là, une voiture arrêtée avec des officiers allemands, une Opel blindée qui se trouvait par là, avec des officiers allemands. Puis certainement, elle a dû voir plus loin des gens en colonne. Ouh là là, elle s'est dit, là, ça va mal, Charles, tu vas rentrer chez toi. Alors j'habitais là-bas, vous voyez, où il y a le Crédit Agricole. C'était un petit magasin d'électricité, mon père était artisan électricien. Alors elle m'a dit, vite, vite, rentre chez toi. Et à ce moment-là, j'ai coupé. J'ai traversé la route ici et je me suis trouvé devant la voiture, devant l'Opel militaire, des officiers qui avaient l'air d'être impatients d'arriver à la gare. Alors je traverse devant les officiers, là. Je les vois, là, je peux toucher le capot. Hein.
Donc les gars,
vois,
tu les as vus de près, quoi.
J'ai vu un uniforme, j'ai vu leur visage, tout. Je n'ai pas remarqué de signe SS. Nous avions la passion, les gamins, de chercher des SS parce que c'était des loups-garous. Dans le sort que c'était très rare. J'en avais vu à Nîmes chez mon cousin, là, parce que c'était pas pareil, Nîmes, c'était plus grand. Alors, bon, mais j'ai commencé à remonter, comme nous le faisons à ce moment. Je me suis trouvé par là, ici. J'ai vu des femmes qui piétinaient. J'ai vu la colonne, le début de la colonne, ce n'était que des femmes qui se trouvaient là, qui piétinaient, mais alors dans un état dépenaillé, épouvantable, mais. Elles étaient habillées comme des vendangeuses avec des fichus sur la tête, là, des braillées, enfin, pas possible. J'ai bien observé, j'étais quand même choqué, là, je ne comprenais pas. Alors je continuais à remonter pour aller chez moi.
Est-ce que ça faisait du bruit?
Ah oui, ça faisait un bruit sourd. C'est triste à dire, mais ça faisait le bruit des troupeaux de moutons. Car cette route, autrefois, était empruntée par la transhumance. Les troupeaux de moutons qui séjournaient dans la Croix, dans la région, allaient dans les alpages, dans le Vercors. Ils passaient par cette route qui va sur le Vercors. Ils passaient à pied, mais c'était des troupeaux de moutons qui avaient peut-être 600 mètres ou 700 mètres de long. Et là, c'était à peu près le même bruit. Ça piétinait. Et on entendait quand même des cris étranges. Évidemment, après, j'ai vu qu'il y avait des hommes. Quand je suis arrivé au niveau de la maison de mes parents, j'ai vu que ça continuait sur des hommes. J'avais déjà croisé le premier fait de gendarme. Il ne m'avait rien dit, mais le second qui se trouvait là-bas m'a fait rentrer dans la maison. Ah, raus, raus, vite, vite. Je suis rentré dans la maison. Il a ouvert les volets du petit magasin que mon père avait d'électricité. Il a fermé les portes et tout ça. Puis je continuais à regarder à travers une fenêtre après, évidemment. Pour en revenir aux cris que nous entendions, mais c'était des cris stridents, curieux. Ça m'a fait peur. J'ai dit, ils doivent les taper. J'ai dit, non, ils doivent recevoir des coups, ces gens, c'est pas possible, c'est inquiétant. Ce n'est que plus tard, lorsque nous avons retrouvé les survivants, et les survivantes surtout, qui nous ont expliqué, mais dans notre convoi, il y avait beaucoup de Basques, les Basquaises étaient en tête, et elles recevaient des signaux par ces cris gutturaux, comme les gardiens dans les Pyrénées, dans le Pays Basque, qui poussent des cris, pour nous faire ralentir, ça voulait dire ralentissez. J'ai eu la réponse 40 ans après. Voilà, alors je suis rentré donc chez moi.
Et là, tu as la trouille, parce que tu m'as raconté des exploits de gamins où apparemment vous n'avez pas froid aux yeux.
Ah là, c'était inquiétant parce que ces faits de gendarmes-là, on n'avait pas l'habitude d'en voir. Ils avaient un collier de pendu.
C'est ce qu'on appelait les colliers de chiens.
Croissant de lune, là, hein, avec marqué faits de gendarmerie. Et ça, on n'en avait jamais vu. Et ils avaient des mines patibulaires parce qu'ils étaient fatigués aussi. Hein. Ils surveillaient le convoi depuis 2 mois. Ils avaient subi la chaleur et ils avaient soif comme les copains.
Et puis ils avaient la trouille aussi, parce que le débarquement de Provence avait eu lieu.
Ils n'étaient pas tranquilles, là, d'une arrivée de maquisards ou les Américains et les Alliés se trouvaient à Sisteron ou peut-être se trouvaient près d'Apt. Alors donc c'était pas loin. Et ils étaient donc très 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 inquiets. Il y avait une colonne, disons, de faits de gendarmes qui marchait en regardant les prisonniers et l'autre colonne dos à dos du côté de la population. Certains regardaient les prisonniers pour pas qu'ils s'évadent et l'autre regardait les gens qui risquaient de leur porter secours.
Tu fais le geste de tenir le fusil et de le braquer sur des gens. Hein.
Voilà, et braquer comme ça, c'était pas trop drôle. Alors. Donc je me trouvais exactement par là. Et il m'a fait rentrer avec un coup de pied au derrière. Alors, un peu plus loin, là, il y avait une petite fenêtre, comme les autres maisons, là. Celles-là n'ont pas bougé. Et là-bas, on a regardé à travers les volets demi-ouverts. On appelle ça les volets encabanés, dans le midi. On a assisté à tout le passage. Quand je me trouvais par ici, que les femmes étaient là, je voyais le bout de la colonne, là-bas au bout, hein. Et ça tournait, il en arrivait encore. Tu vois un peu la longueur de la colonne que ça fait. Au bout là-bas, où il y a le rond-point, là-bas, où les gens tournent. Mais ça tournait encore, il y en avait encore vers là-bas.
Puis ils étaient rangés par 4 ou 5,
ah,
non?
Ils étaient par 5. Ici, j'ai très bien vu le képi du gendarme. J'ai très bien vu le curé, là, passer.
Dans les 700 voilà. personnes qui marchaient, il y avait un curé, un gendarme et un facteur.
Il y avait un facteur. Les gens qui étaient autour de nous, des amis de mes parents, c'était ma mère, mon père n'était pas là, disaient, mais c'est les prisons d'Orange que l'on vide. Alors d'autres disaient, mais c'est pas possible, il y a trop de monde, il n'y a jamais eu tant de monde dans les prisons d'Orange, c'est pas possible, il n'y a pas de prison pour contenir tout ce monde-là, peut-être des juifs, c'est peut-être autre chose. Puis il y en a qui disaient, mais il y a un curé, donc c'est pas des voleurs. D'autres disaient, il y a des gendarmes, encore plus. Alors ils ne savaient pas, les gens étaient troublés, ils ne savaient pas, étaient vraiment inquiets. Là, les sorgués ont touché du doigt ce que c'était que la cruauté.
Le gendarme, il avait encore son uniforme et son képi. Le curé était en soutane oui, et le facteur
oui,
aussi. Ils
oui,
étaient
oui,
vraiment
oui,
reconnaissants.
Oui, oui, oui. Ils étaient restés comme on les avait pris. Ça veut bien dire que s'il y a un gendarme, s'il y a un curé, c'est pas des voleurs. Hein. Comprenez?
Ce qu'on voit, donc, il était très long.
En partant de là, déjà, jusque là-bas au bout, il y a bien 300 mètres. Hein.
Oui, oui, oui.
300 mètres, il devait y avoir encore 300 mètres de l'autre côté. Il tournait là-bas, au virage. On ne voyait pas le bout du convoi. D'ici, on ne le voyait pas. Alors, voilà. Et le convoi allait là-bas, après le feu rouge là-bas, beaucoup plus loin encore. Beaucoup
plus loin. On est à au moins 600 mètres du feu rouge, non?
Allez au bout du feu rouge, parce qu'il tournait après à gauche pour aller dans l'avenue Gentilly. C'était impressionnant, oui, oui, c'était vraiment impressionnant. Mais il n'y avait pas que des déportés, on a su après qu'il y avait une cinquantaine d'insoumis allemands, il y avait d'autres personnes aussi qui avaient été mis dans le convoi comme travailleurs obligatoires. On ne leur avait pas donné le choix, on leur avait dit où tu vas travailler en Allemagne, ou on te met en prison, ou peut-être on te fusille. Alors c'était des jeunes, ils ont eu peur, hein. Mais ils étaient dans le même convoi, hein. Ils marchaient, plus la colonne de gendarmes. Hein. Ils avaient dû faire le barrage là où la voiture blanche vient de sortir, là-bas, tu vois. Ils avaient barré là-bas. C'est pour ça qu'il y avait le silence. Ces platanes existaient, ces platanes, ils les ont vus passer. Ils sont allés à la gare par là. Et dans cette gendarmerie, il y a un évadé célèbre qui s'appelait le commissaire M, qui est venu se cacher, qui s'est réfugié chez les gendarmes, qui l'ont gardé une nuit. Et ensuite, le lendemain, ils l'ont conduit vers le maquis. Ah voilà la file, hein. Tu vois comment ça fait.
De tout là-bas au rond-point.
Ah ouais, au rouge là-bas, là. Au virage, là-bas. Et alors, donc, ça primait sur le militaire, et les militaires qui étaient pressés de rentrer, ils étaient tous à la queue leu là, jusqu'au pontet, peut-être.
Alors que les Américains ont débarqué 3 jours plus tôt en Provence,
oui.
Le convoi de déportés est prioritaire oui. sur l'armée allemande qui
oui.
se replie.
Pour aller se battre sur Montélimar, ou c'est l'arrière-garde, quoi. Hein. Ils font fi de tout ça, eux, c'est... Ils ont priorité, ils passent.
Et alors, au niveau des trains aussi. Les trains de déportés avaient la primeur sur les trains de soldats. La voilà. déportation, même au cœur de la débâcle.
C'est pour ça que ce train a servi d'otage. Ils se sont servis l'état-major, toute la logistique civile qui travaillait pour les militaires civils allemandes, leurs femmes, leurs épouses, incorporées dans des voitures de voyageurs qui étaient dans le train fantôme. Mais ceux-ci ne sont pas venus avec le convoi en marchant à pied. Ils étaient dans des camions. Qui les ont chargés à Roquemont. Les convois de déportés étaient prioritaires sur le militaire. Ils ont arrêté la colonne d'Allemands ici pour laisser passer les déportés.
Ça illustre bien la volonté de destruction des nazis. Hein.
Mais la ruse aussi du chef du convoi pour rentrer chez lui.
Ces 700 déportés leur servent d'otages, d'assurance qu'ils ne seront pas mitraillés par l'aviation alliée.
Et qu'en 24 heures, ils seront chez eux, qu'ils seront en Allemagne. Les épouses, les secrétaires, les membres de l'état-major de Toulouse, tout ça était là-dedans.
Et alors dans le convoi, les wagons à bestiaux qui contenaient les déportés étaient alternés avec des voitures de voyageurs.
Mes calculs, le convoi à Sorgue avait mesuré 200 mètres.
Ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'histoire de ce convoi du train fantôme, c'est que alors que les ponts, les voies de chemin de fer partout dans la région ont sauté, le commandant de ce convoi va réussir, entre guillemets, le triste exploit de ramener ce convoi jusqu'en Allemagne, Dachau, Mauthausen, pour ceux qui arriveront là-bas. Et c'est un véritable exploit logistique qu'a réalisé.
Tout à fait. Il a fait un exploit. Un tacticien remarquable, un militaire de carrière. Très jeune, il avait 24 ans. À 24 ans, il avait déjà été reçu par Hitler, juste sa photo.
Ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est que pendant 60 ans, vous ne saurez pas d'où venaient ces gens.
On ne savait ni d'où ils venaient, ni où ils allaient.
Et a fortiori, donc, vous ne saviez pas à l'époque par qui ce convoi était commandé. Là, ce que tu racontais sur cet officier allemand, vous ne l'avez découvert que bien plus tard.
Oui, mais enfin, ça, c'est en cours. Rien affirmé pour l'instant tant que nos recherches n'ont pas abouti à 100%. Alors voilà, il tourne là. Hein.
On arrive à la gare SNCF de Sorgue, où depuis 1991, il y a désormais un monument à la mémoire des déportés du train fantôme et des courageux sorguais qui sont venus essayer de secourir ces déportés.
Soixante-dix ans après le 18 août 44, vous voici en 2014 avec Charles sur le côté de la gare de Sorgue, une esplanade en béton et des entrepôts le long des voies.
Ils avancent et vont rentrer par ce portail.
Là, c'est un bâtiment qui est sur le côté...
Que l'on appelait autrefois la petite vitesse, qui sert aux expéditions. Et donc là, il y a de la place pour attendre l'embarquement.
Donc là où je suis en train de marcher en ce moment, sur ce petit chemin qui va au bâtiment, voilà. Là, mon grand-père a dû marcher il y a 70 ans et 3 jours.
Tout à fait.
On rentre dans l'enceinte.
Il y avait par là une grue d'eau pour les locomotives. Et cette grue d'eau, elle avait été sabotée, elle était couchée, elle était inutilisable.
Donc la motrice du convoi ne pouvait pas se réalimenter en eau ici.
Voilà. Elle avait été livrée à sec d'eau. Les cheminots résistants d'Avignon pensaient qu'elle ne pourrait jamais démarrer. Alors le train était garé sur la voie, voilà. La locomotive a reculé jusqu'à un canal, là-bas où tu vois ces platanes, là-bas au loin, là-bas. Là-bas, il y a un ruisseau, et là, avec des seaux, et des hommes et des prisonniers requis, je me demande où ils avaient trouvé les seaux, parce qu'ils devaient être bien une vingtaine, ils ont rajouté de l'eau dans le tender de la locomotive. Ce qui a pu la faire aller tout au moins jusqu'à Orange, ou à Orange, elle a dû certainement refaire un plein, mais ça n'a pas de preuve. Pour ça, mais elle a eu assez d'eau pour pouvoir redémarrer, faire quelques kilomètres. Et donc, ils ont pris l'eau là-bas. Alors, le train est stationné par là. Alors, quand on a construit les voies ferrées, c'était des prairies, tout ça. Et il y avait des canaux d'arrosage qui venaient de par là, puisque là-bas, il y a un canal qui passe, des canaux qui passaient pour continuer à irriguer. Les constructeurs, à cette époque-là, du chemin de fer, on fait des tunnels pour que les canons puissent toujours continuer à alimenter pour pouvoir irriguer les prairies qu'il y avait là autour du village. Il restait donc un canal qui a servi aux évasions. Avec l'aide des cheminots qui leur ont montré la voie, ils leur ont prêté une casquette, un fanal, et ils ont pu passer par là et se sauver de l'autre côté. On va essayer de voir s'il y a toujours l'entrée de ce canal. Alors là, c'est là que les sorguais venaient aux barrières porter des ravitaillements. Là. Je crois qu'il y avait une fontaine par là. Ils allaient chercher de l'eau à cette fontaine. Ça, c'est des chemins d'évasion. Il y en a beaucoup qui se sont évadés par cette rue.
Et donc, intrigués, il y a des habitants de Sorgues.
Oh, ils sont venus, là, tout le quartier est venu, spontanément.
Des dizaines de personnes, ça?
Des centaines, hein. Peut-être 300 personnes qui sont venues pour ravitailler, et voilà. Ils se sont trouvés résistants, spontanés.
C'est un fait unique dans l'histoire de la déportation en France, cette manifestation spontanée de centaines d'habitants de Français qui viennent apporter des melons d'eau, de la nourriture, de l'eau, qui essayent de la donner à ces déportés. Et ils y arrivent à leur donner des trucs?
Ah oui, oui. Les Allemands en profitent pour eux. Profitent de cette aubaine de nourriture. Ils les laissent venir, ils leur envolent la moitié et ils se servent pour manger. Alors je crois que l'entrée du canal était peut-être par là. Ce bâtiment existait et ils étaient affalés là, ils étaient tous affalés. Moi je ne les ai pas vus, mais enfin, d'après ce que j'ai entendu raconter, ils étaient tous affalés par là et le train se trouvait par là. Il y avait une voie de garage par là, le train stationné, oui, il y a trois voies. Les voies principales là, puis il y a une petite voie là, qui sert à débarquer le matériel, tout. Alors il était garé sur celle-là de voie. Comme ça, le fameux tunnel d'évasion, l'entrée se trouvait par là. Et ici, par là, il y a un passage souterrain pour un canal qui va en face là. Et il y avait des canaux pour irriguer le village. Les chemins de fer, ils ont recouvert ces canaux, ils ont fait des petits tunnels. Partout où le réseau passe, vous avez des tunnels comme ça. Et là, celui-là est assez long puisqu'il va se terminer là-bas. Ce qui permet aux gens de s'évader, de descendre, ils passaient par ce regard et ils fuyaient. Des cheminots donnaient une casquette de cheminot et une lanterne. Les Allemands ne faisaient pas attention. Ils se mettaient la casquette, la lanterne, ils venaient là-dessus, ils passaient dessous, et à la sortie, ils reposaient la casquette et la lanterne. Un cheminot allait chercher la casquette et la lanterne, et ça a continué, ça a permis, là, peut-être 15 évasions. Voilà, ils se sont trouvés, après, sur la route de Veden, il y a une route qui passe là-bas.
La surveillance des feltes gendarmes était très très serrée, donc là, il y a dû y avoir un relâchement.
Ah ben, il y a eu un relâchement, c'est sûr que tout le monde était fatigué, ben... Ils attendaient les ordres. Surtout, ils étaient préoccupés à surveiller qu'il n'y ait pas d'évasion de l'autre côté.
Alors ça a été l'une des façons de s'évader, parce qu'il y a au moins une trentaine d'évasions en gare de Sorgues.
Les évasions se font par là, pratiquement. Monsieur Caléja s'évade là-bas en face. Le commissaire M s'est évadé par là. Il les autorisait à aller chercher de l'eau, avec des arrosoirs, tout ça, parce qu'eux aussi, ils avaient soif. C'est plein de petites maisons. On pouvait partir aussi par là. Les plus grosses évasions ont été certainement par là et par là. Ah, fallait être courageux pour s'évader. Déjà, il fallait se sentir physiquement en forme pour s'évader. Il ne faut pas être fatigué parce qu'il faut pouvoir prendre les jambes à son cou, courir, sauter des murs, se réfugier chez les gens. C'est quelque chose de physique déjà. Il faut avoir le moral et le physique. Hein.
De la trentaine d'évadés qu'il y a eu à Sorgues, aucun n'a été repris.
Aucun n'a été repris, ils n'ont pas été vendus. Tout le monde s'est tué.
Qui c'est qui habitait ces maisons-là, qui sont juste devant la gare?
Des ouvriers. Voilà, c'était pas le quartier bourgeois de Sorgues. D'abord, le quartier bourgeois de Sorgues, il n'y en a pas. Ils ont été spontanément résistants. Voilà. Ils sont venus, ils ont été écœurés de voir comment maltraiter ces gens. Quant aux femmes, elles sont restées dans le wagon. Ils ont interdit de sortir du wagon. Vous ne voulez pas les montrer, peut-être, pour pas attiser la colère des Sorguais, fort possible.
Il faut aussi noter que les cheminots, d'ailleurs ce ne sera pas qu'à Sorgues, s'arrangeront souvent pour laisser dans les wagons des objets métalliques, oui, dont on pense qu'ils pourront aider à forer le bois, soit du plancher, soit de la porte du wagon pour, oui, s'évader. Ils vont planquer des outils comme ça. Parce qu'il paraît que c'est dans nombre de ces wagons à bestiaux, sur lesquels c'était marqué combien de chevaux, combien d'hommes déjà?
Hommes 40, chevaux en long 8.
Et dans les témoignages que tu as retrouvés, dans nombre de ces wagons à bestiaux, il y avait eu de la chaux ou du ciment, je crois, qui, oui, permettait, oui, qu'on planque dans ces petits tas de poussière des limes, des petits couteaux, des barres de fer.
Oui, c'était des wagons qui avaient servi à transporter du ciment pour le mur de l'Atlantique. Ça a permis donc de camoufler ces petits tas des lames de scie ou je ne sais quoi, des couteaux, ce qu'on pouvait.
Une occasion de saluer au passage le courage, les actes de résistance très nombreux des ouvriers et notamment des cheminots pendant cette période.
Il y avait une petite polémique là sur le rôle du chef de gare. Je savais que j'avais lu ça dans le passé, mais j'ai fini par le trouver. Un document écrit par le commissaire de police M. Raymond, qui s'est évadé à Sorgues. Il a écrit ça
une lettre adressée au secrétaire général des services de la Sûreté nationale.
C'est une lettre officielle, hein.
Le papier est déjà encore État français. Il n'y a même pas encore République française. Donc,
estampillé ministère de l'Intérieur, Direction générale de la Police nationale.
Renseignements généraux de la région de Toulouse. Alors, l'objet de l'attitude du personnel de la SNCF de la gare de Sorgues près d'Avignon, Vaucluse. Toulouse, le 2 octobre 1944, le commissaire de police M. Raymond, du service régional des renseignements généraux, à M. le secrétaire général des services de la Sûreté nationale. Objet de l'attitude du personnel de la SNCF de la gare de Sorgues près d'Avignon, Vaucluse. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les faits suivants. Le 18 août 1944, le convoi de 1000 déportés politiques parti le 9 août 1944 de la gare de Bordeaux-Saint-Jean et comprenant des civils, hommes et femmes, détenus auparavant au camp du Vernet d'Ariège, à la prison Saint-Michel de Toulouse et au fort du Ha de Bordeaux, étaient transbordés à pied par les Allemands de la gare de Roquemort à celle de Sorgues dans le Vaucluse. Au moment du rembarquement en gare de Sorgues, le personnel de la SNCF de cette gare, sous l'impulsion de leur chef de gare, Kaufmann, s'est dépensé sans compter pour permettre l'évasion du plus grand nombre de détenus possible. C'est ainsi qu'une trentaine de détenus, dont moi, ont pu réussir à prendre la fuite malgré la surveillance très serrée effectuée par les gardes allemands. Je me permets de vous signaler ce fait en faisant appel à votre haute bienveillance afin que l'action de ces cheminots ne passe pas inaperçu et qu'au moins une lettre de félicitations soit adressée à ces personnes qui, en toute connaissance du danger qu'ils couraient, se sont cependant efforcés de sauver le plus grand nombre de déportés possible. Signé Raymond M., commissaire de police. C'est M. M. qui nous a donné cette lettre, hein, une copie qu'il avait gardée dans son dossier. Voilà.
Alors là, on se retrouve devant le monument à la mémoire du train fantôme et de ses 700 déportés.
Il y a les noms de marqués.
Il y a du fil de fer barbelé intégré dans le matériau, là, qui a marqué Toulouse, Bordeaux, Sorgues, Dachau, Ravensbrück, 18 août 1944. Voilà les principales étapes du train fantôme.
On pourrait dire qu'on a oublié Mauthausen.
Et donc ce monument représente 6 personnages plus que grandeur nature. Les personnages font plus de 2 mètres. Ils sont écrasés par 2 piliers, ils sont comprimés, puisque dans ces fameux wagons à bestiaux, chevaux 8, hommes 40, les nazis en mettaient jusqu'à 70 personnes.
Plus, même plus. Ça pouvait aller à 80.
Et donc les pauvres, ils pouvaient pas tous s'allonger, ils étaient obligés de faire des rotations souvent pour qu'il y en ait qui puissent un peu s'allonger, d'autres rester debout.
C'est classique, comme dans tous les trains de déportation. Et certains ont posé pour... Alors voilà, ça c'est Dudule, c'est Robinet.
Donc ça c'est un monsieur avec une casquette.
Madame Vincent, Madame Lacoude avec le fichu sur la tête. Ensuite, je sais pas, les autres, qui ça pouvait être, je me souviens pas.
Qui traverse la plus belle partie de la France, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, en chantant fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là, qui fait risette. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7.
Vous êtes toujours sur ce tronçon de National 7 qui traverse Sorgues. On résume, 18 août 44, c'est la débâcle allemande. Les alliés qui ont débarqué en Provence le 15 ne sont qu'à quelques dizaines de kilomètres de Sorgues. Or, ce convoi de plus de 700 déportés surveillés par près de 180 soldats est prioritaire sur les mouvements de repli de la Wehrmacht. Même dans la défaite, les nazis ont estimé qu'exterminer leurs supposés ennemis restait un but de guerre prioritaire. Plus prioritaire que la tactique militaire. Il faut aussi comprendre qu'au-delà de l'idéologie exterminatrice des nazis, ces plus de 700 déportés sont aussi des otages dont leurs gardiens allemands se servent comme de boucliers pour rentrer chez eux. L'idéologie nazie fait que le train fantôme a donc priorité sur les mouvements de troupes. Mais pourquoi fantôme ? Ben, faut aussi comprendre cette chose incroyable. Dans le sud de la France d'août 44, il est matériellement impossible qu'un train circule normalement dans ces zones de combat de la libération prises entre deux armées, l'une qui avance, l'autre en déroute, qui recule. Un train ne peut pas rouler sur des ponts et des voies de chemin de fer détruits par les résistances locales et par l'aviation alliée. Et pourtant, malgré la résistance, notamment les sabotages de cheminots, pendant deux mois, le train fantôme parviendra toujours à disparaître, réapparaître, sauter les obstacles et être obligeamment reconstitué par les dirigeants français de la SNCF. Et le train parviendra malgré tout en Allemagne. Parti de Toulouse le 3 juillet 44, ce sinistre convoi arrive le 28 août à Dachau. Rappelons encore que si la résistance a compté d'innombrables cheminots et autres ouvriers, les dirigeants de la SNCF de 40-44 ont, eux, et jusqu'au bout, toujours su répondre aux exigences des nazis en fournissant wagons et locomotives pour la déportation. En témoignent d'ailleurs des factures SNCF envoyées à Berlin en août 44. Mais en 44, ni Charles ni personne ne sait encore tout ça. Pour exhumer cette histoire, comprendre qui étaient ces plus de 700 martyrs, découvrir d'où ils et elles venaient et allaient, il va falloir dès 1989 la curiosité de deux amis de Charles, Robert et Edith Silve, qui ne sont ni chercheurs ni profs d'histoire. En 1989, Edith est encore aide-soignante à l'hôpital. Robert, qui vendait des assurances, vient lui d'arriver à la retraite et en profite pour se livrer à ses dadas, l'histoire et la généalogie, qui sont également des passions de son copain Charles, qui lui n'est pas académicien, mais électricien. De fil en aiguille, Edith, Robert, puis Charles et Janine, son épouse, vont former le noyau dur de ce qui va devenir l'amicale des déportés résistants du train fantôme qui, depuis 89, avec rigueur et obstination, fait des recherches, retrouve des témoins, reconstitue patiemment le puzzle de l'invraisemblable mystère de ce convoi oublié. Charles, ce que je trouve extraordinaire dans cette histoire du train fantôme, comme dans bien d'autres histoires de ce genre, c'est que cette histoire, elle va dormir pendant plus d'un demi-siècle. Toi, gamin, tu vois ces gens qui passent devant chez toi, puis bah après, bah, tu vas construire ta vie d'homme, et puis cette histoire, elle va te revenir comme un boomerang 60 ans après, ou alors tu l'as toujours en sourdine derrière la tête ?
Je l'ai toujours en sourdine. Toutes les années, je rabâchais, un peu comme mon grand-père quand il racontait la guerre de 14. Alors je rabâchais ce que j'avais vu. Mes filles devaient se dire, ils répètent encore la même chose. Mais effectivement, quand on a eu fait la découverte de ce que j'avais vu, mes filles ont dit, papa, tu avais vu quelque chose d'important. Voilà. Donc c'était quelque chose qui me travaillait. Je voyais toujours ce qu'on voit. Personne dans le sort ne me répondait. Les gens ne s'étaient pas imaginé que ce convoi était arrivé à destination parce que ce n'était pas possible. Les alliés étaient aux portes de Sorgues, à 40 km. Ils étaient à Sisteron, ils étaient même à Pertuis. Ils étaient déjà dans le Vaucluse. Les viaducs cassés, les ponts cassés, ce n'est pas possible qu'ils arrivent en Allemagne. Alors, je crois qu'ils ne se sont pas trop inquiétés là-dessus. On aurait pu en reparler quand des survivants sont revenus voir leurs sauveteurs. Après la guerre, certains sont revenus voir leurs sauveteurs, mais il n'y a pas eu un journaliste qui se soit intéressé à tout ça, personne n'en parlait. Et les gens ne voulaient plus parler de la guerre parce que, faut bien dire que tous les gens étaient divisés. Hein. La France n'était pas à 100% résistante, loin de là. Alors. Plus ça a été politique, peut-être il y en a qui ne voulaient pas que la politique s'empare de tout ça. c'était fermé. Voilà, plus personne n'en parlait. Terminé. Il a fallu que, par un concours de circonstances, que j'en parle à Robert Silve, qui lui était au courant, lui avait plus de 10 ans que moi, et avait, après la libération, lu un petit opuscule d'un témoignage de Francesco Nitti qui retraçait son parcours jusqu'à son évasion. Et alors il savait. Je voyais Robert presque tous les jours, mais jamais j'ai parlé de ça. On parlait du boulot, on parlait d'autre chose. Il était assureur. Je m'assurais chez lui. Bon. Puis un jour, au moment du bicentenaire de la Révolution française, en 1989, comme je suis passionné de généalogie depuis toujours, j'étais à une exposition généalogique. Et puis je le rencontre, je dis « Ah tiens Robert, tu t'intéresses à la généalogie ?»« Oui, bon. » Il me dit « Il y a Sorgue, il y a maintenant une association d'histoire qui essaie de retrouver des faits qui se sont passés pendant la Révolution. Alors c'est très intéressant. Est-ce que tu as une idée de quelque chose de cette période-là » Clac, d'un coup, voilà que le défilé me passe devant les yeux. Ah, je dis « Robert, non, mais il y a quelque chose qui m'a intrigué toute ma vie, c'est que j'ai vu passer un convoi de déportés. Je ne sais pas d'où ils venaient ni où ils allaient. C'est tout ce que je sais. » Oh, il me dit, mais tu me rappelles quelque chose. J'ai lu un petit opuscule à l'époque sur cette histoire. Je vais essayer de retrouver ce livre. Partant de là, on essaiera de faire quelques recherches. Effectivement, il cherche le livre, ne trouve pas nulle part. Il réussit par la médiathèque de Bordeaux à se procurer le livre. Edith, l'épouse de Robert Silve, va l'écrire à la main. Alors nous avions déjà une piste sérieuse, puisqu'on parlait de Sorgue, on parlait de ce qui s'était passé à Sorgue ce jour-là, très bien décrit par Francesco Nitti. Ensuite, il a donné une publicité à cette affaire. Robert, les journaux en ont parlé. Et puis aussi, en plus, lisant les journaux, une personne de Sorgue qui s'appelait Joseph Caiola est venu nous trouver et nous a dit « Mais moi, je connais bien l'histoire de l'arrivée du train fantôme parce qu'on ne savait pas dans quel camp de concentration il était arrivé, car le témoignage de Francesco Nitti s'arrêtait à son lieu d'évasion, c'est-à-dire la Haute-Marne. Il ne savait pas après où ses camarades étaient. D'ailleurs, il le dit dans son témoignage, quand il écrit, ils sont encore emprisonnés. Donc c'est un témoignage très élaboré, fait à chaud. Et alors, il y a un monsieur Caiola qui se présente. Tout le monde le connaissait, Sorgue, très sympathique. Il dit, mais moi j'étais à Dachau, c'est moi qui ai ouvert les portes du train fantôme. Ah ben ça alors, mais tu es sûr de ne pas te tromper? Non, je ne me trompe pas parce que je suis moi-même d'origine espagnole, je sais parler l'espagnol. J'ai entendu des Espagnols parler et je les ai interrogés. Ils m'ont parlé de Sorgue, ils m'ont parlé de leur parcours, donc on ne peut pas se tromper. C'était bien le train fantôme que j'ai ouvert. Et Joseph, mais pourquoi tu as été désigné pour aller ouvrir ce train? Il m'a dit, parce que j'étais volontaire, je pensais toujours à m'évader. Parce que le typhus régnait dans le camp de concentration de Dachau et les Allemands ne voulaient pas ouvrir eux-mêmes, ils désignaient des gens. Et moi, je me suis trouvé volontaire pour y aller. Ou peut-être désigné d'office, je ne me souviens pas trop ce qu'il a dit, mais je pense qu'il avait été volontaire. Alors il ouvrait les wagons, les SS se tenaient de loin pour ne pas respirer les microbes, et c'est là qu'il a pu contacter des Espagnols avec qui même, je pense, qu'il a eu des relations après la guerre. Alors voilà, ça a démarré de là, alors on savait le point de départ et on savait l'arrivée. Alors après, il ne restait plus qu'à trouver des amicales de Dachau, parler des amicales de Dachau, aller à des congrès, et retrouver des gens, et puis on a tiré le fil. Puis Robert, qui avait beaucoup plus de temps que moi, a réussi à en retrouver plusieurs, et ça fait boule de neige. Ça a débouché sur l'amicale, ça a débouché sur le mémorial, et voilà où nous en sommes aujourd'hui.
Comment est-ce que vous avez déterminé l'origine du convoi? Là, tu as parlé de la fin qui était Dachau, puis Mauthausen pour certains.
Très facile, il suffisait d'avoir le livre de Francesco Nitti sur son témoignage. Il part du Vernet, et il était emprisonné dans le Vernet, il décrit tout, du Vernet, de Toulouse, jusqu'au bout. Après, par des témoins, par des rescapés, on a eu des traces, c'est sûr. Ça a fait boule de neige. On a tiré le fil et tout est venu. Voilà, bon, ben c'est sûr qu'il y a des zones d'ombre. Mais on est quand même assez précis.
Quand avez-vous entendu pour la première fois l'expression « train fantôme » ?
Cette expression est sur le livre de Nitti. En 1945, déjà, il s'appelait le train fantôme. Ensuite, un rescapé, Damien Macon, natif de Sète, a toujours prétendu « c'est moi qui ai baptisé ce train, train fantôme ». Il voulait que ce soit lui qui en ait la paternité. Et tous les documents qu'on trouve à l'époque de 1944, des rescapés, tout ça, il est mentionné le train fantôme. Donc le train fantôme s'appelait train fantôme en 1944, lorsqu'ils étaient déjà dans le train.
Cette histoire émerge en 1990. Le mémorial voit le jour en 91 avec l'association. Vous allez quand même aller très très vite. Est-ce que compléter l'histoire de la région avec cette odyssée du train fantôme, est-ce que vous n'êtes pas un peu rentré sur un terrain mémoriel bien gardé? Il y a beaucoup de gens qui ont participé à cette guerre. Il y a des militaires, il y a des résistants, il y a des maquis, il y a les uns, il y a les autres. Et vous, dans les années 90, vous étiez, si j'ose dire, un peu les petits nouveaux sur ce terrain de l'histoire.
Oh, il y a eu des jalousies, mais pour moi, j'ai tout appris. Hein. Il a fallu que j'apprenne tout. Hein. Je n'étais pas un universitaire, je suis un technicien. Sauf que j'avais l'habitude d'aller dans les archives, ça oui, là, je suis un chercheur. Bon, mais je ne suis pas un historien. Mais c'est sûr qu'on a dérangé beaucoup de monde, ça c'est évident. Hein. À commencer par les associations patriotiques du Vaucluse, là. Ce n'est que maintenant qu'on commence à nous faire quelques sourires parce qu'ils se sont éteints, ils n'ont pas continué à prendre des adhérents dans les jeunes alors que nous, on a pris des jeunes et des sympathisants. Alors. Et puis, on n'était pas des combattants. Alors. Et puis, on les dérangeait, vous comprenez, le train fantôme, ce n'était pas un exploit pour les résistants du Vaucluse d'avoir laissé filer un train comme ça. Hein. Il faut bien comprendre que les associations d'anciens combattants, de patriotes résistants, de maquisards, tout ça, ils ne s'entendaient pas entre eux. Il y a plusieurs obédiences. Vous avez les FFI, les FTP, les FTPF, la NAC, le CI, le LA, il y en a, mais nous, on a été bien obligés de s'adresser à eux pour chercher. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des rivalités entre eux qui n'étaient pas liées. Tandis que les Juifs, ce sont des gens qui sont liés. Ils ont eu plus de facilité pour s'exprimer vis-à-vis d'autres Français qui, eux, bon ben, se divisaient par la politique, hein, surtout.
Toi, quand tu étais gamin et que tu as vu ce qu'on voit passer sous tes yeux, sur les soldats et sur les officiers, tu n'as pas repéré d'insigne SS. Non. Quand est-ce que tu as la certitude que parmi ces 180 fêtes gendarmes, il y en a qui sont affiliés à la SS?
Ah oui, parce que j'ai lu des articles sur les fêtes gendarmes. Certaines fêtes gendarmes peuvent appartenir à la SS. Certains être mélangés avec d'autres fêtes gendarmes qui ne sont pas SS. On incorpore quelques gendarmes SS parmi les fêtes gendarmes normaux pour les surveiller, pour les obliger à faire la triste tâche à laquelle on les a assignés.
Ces fêtes gendarmes, ils étaient redoutés des hommes de la Wehrmacht eux-mêmes.
Ce sont des gens qui cherchent la petite bête, qui font des enquêtes, etc.
C'est eux qui traquent les déserteurs de la Wehrmacht aussi.
Ils traquent les leurs. Ils n'ont pas besoin de traquer les Français. C'est les Français qui les traquent, alors. Ils n'ont qu'à prendre des renseignements auprès des Français, puis ça marche après. Voilà. Ils ont des gens qui travaillent pour eux. Mais sinon, c'est un rôle de policier. Ce sont des policiers, ce sont des gendarmes. Hein.
En ce qui concerne le commandement de ce convoi, tu as parlé d'un jeune officier, ce brillant tacticien de 24 ans. Il y a encore des recherches en cours?
Je recherche toujours. Il est évident que c'est un train d'otages. Il est évident qu'il y avait des voitures de voyageurs au départ de Toulouse où il y avait des civils de l'intendance haut placés, des gens peut-être aussi de la Gestapo, leurs épouses, tout ça, des voitures de voyageurs. Les autres voitures de voyageurs servaient aussi à l'escorte. Il y avait des voitures de voyageurs où il y avait le Gratin de Toulouse qui se repliait vers l'Allemagne, notamment un lieutenant qui s'appelait Baumgarten, un officiellement non-nazi, de très haut niveau, qui avait 25 ans, tous les signalements portent à croire que c'est lui qui a repris le commandement du train au mitraillage de Parcoul-Médiac
Il a dû sortir de sa voiture de voyageur après le mitraillage et voyant que les fêtes de gendarmes et les adjudants de la fête de gendarmerie peut-être s'en sortaient pas bien, il a pris la direction des opérations et il a réussi à conduire le convoi jusqu'à Dachau, tout au moins jusqu'à Sarrebruck pour rejoindre le général Guderian dans les Ardennes où il a été fait capitaine immédiatement. Mais ça, on ne peut pas le prouver à 100%. Ce ne sont que des suppositions. C'est pour l'instant des recherches plutôt secrètes.
Et donc il y a d'autres éléments d'information qui pourraient continuer à enrichir cette histoire.
C'est évident, on ne peut rien savoir plus. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir pourquoi il y a eu les fusillés de Souge. On est venu chercher des résistants pour les fusiller à Souge, parce que Aubert, qui était le chef des SS de la Gestapo à Paris, avait exigé que Doz, le chef de la Gestapo de Bordeaux, fusille des résistants en représailles de l'assassinat de Grand Clément, un chef de la résistance de Toulouse qui avait été retourné. Enfin, c'est toute une histoire. Et là, il y a eu des parlementations aussi avec Doz, qui a certainement permis de former ce convoi vers l'Allemagne. En aucun cas, il ne s'agit de l'affaire Papon, je le dis bien. Il suffit de regarder les mémoires du procès de Papon. Papon ne s'intéressait plus au convoi. Il s'est intéressé certainement à d'autres convois précédemment, mais pas au convoi du train fantôme. Là, c'est pas moi qui le dis. Il n'y a qu'à aller sur Internet et lire tous les attendus de l'affaire Papon. Et vous verrez bien que Papon n'a rien à voir avec le train fantôme.
Parmi toutes les choses étonnantes qu'il y a dans l'histoire de ce train fantôme, Charles, il y a parmi ces 700 déportés 40 soldats de la Kriegsmarine, donc oui, de la marine de guerre du Reich.
Des gens qui ont refusé d'obéir, refusent d'obéissance, hein, insoumis, ils voulaient plus obéir. On les a mis dans le train. Et après, à savoir, à Sarrebruck, lorsqu'ils ont descendu, Madame Ramos les a vus, ils ont dû les envoyer se battre en Russie ou je ne sais rien.
C'est indéniable, c'était des gens de la Kriegsmarine parce qu'ils avaient un uniforme bleu marine et pas vert de gris.
Oui, c'est un uniforme dont on ne peut pas se tromper sur la couleur, tout ça. Mais ils étaient dans le convoi, ils ont marché avec les autres en queue. Moi, je m'en souviens d'avoir même posé des questions, mais comment ça se fait? On dirait des Allemands, personne ne comprenait rien alors, qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, oui, on commence à comprendre. On a le procès verbal du départ du train à Bordeaux par le commissariat qui dit « il y a tant de personnes, il y a ci, et il y a des insoumis de la Kriegsmarine ». Alors bon, il n'y a plus qu'à essayer de retrouver les archives de la Kriegsmarine. Peut-être qu'on fera une trouvaille, il y en a peut-être même encore en vie, s'ils étaient très jeunes, possible. Mais il faut faire ça en Allemagne, il faut voir en Allemagne. Tous les chercheurs, tous les généalogistes font comme ça, on émet des hypothèses, tant qu'on n'est pas au bout, si c'est négatif, on ferme la porte, on en reprend sur une autre, etc. Et après, on cherche toujours comme ça.
Et à partir de quand tu te dis qu'une piste est fiable? Quand elle est recoupée au moins par un minimum de combien de sources?
Deux, trois sources, mais au minimum deux. Hein. Ah oui, il faut travailler comme ça, sinon on raconte des histoires. Voilà, un chercheur, c'est pas un raconteur d'histoires. Voilà, il faut raconter avec des preuves.
Et voilà les amis, l'amicale des déportés résistants du train fantôme n'a pas été créée par de grands intellectuels plus ou moins médiatiques. Un électricien, un marchand d'assurance, une aide-soignante de province nous donnent ici une magnifique leçon de rigueur historique. Trois citoyens et citoyennes ordinaires nous rappellent ici que l'histoire contemporaine est une science humaine qui se construit avec des sources que l'on croise entre elles pour établir des faits. C'est avec ce béaba de méthodologie historique que s'achève le troisième chapitre de l'incroyable et terrible histoire du train fantôme. Vous pouvez réécouter cette série sur notre site, polémiquesetlavoixoff.com, en attendant la suite de cette lugubre odyssée, bientôt sur cette même antenne. Salut!